l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h35 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne, vous pouvez appeler Florian au 3921, je le vois, il vous attend. Il n'attend que vous, et puis peut-être que nous pourrons parler comme nous venons de le faire avec Gaëtan ce soir, parce que il n'y a pas de petit problème, chers amis, il y a un problème ou quelque chose qui ne va pas, et on peut en discuter. Et déjà, en parler, ça fait extrêmement bien. On accueille Edith, maintenant, au 3921. Bonsoir Edith.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Edith et quel âge avez-vous?
J'ai 60 ans.
Oui.
Et je vous appelle de Vannes.
De Vannes, d'accord. Ouais. C'est la Bretagne déjà, Vannes? Oui. Hein.
Ah oui, c'est bien la Bretagne.
Oui, c'est bien Vannes. La Bretagne. J'y vais de temps en temps d'ailleurs, ces derniers temps. Je m'arrête à Vannes, je crois. Ah non, c'est à Lorient que je m'arrête. Vannes, c'est juste avant.
C'est avant, absolument.
Oui, c'est juste avant. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Edith?
Alors, j'avais envie de vous raconter l'histoire de ma tante. Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de confinement, de Covid, je pense qu'il faut réfléchir sur la façon dont on s'occupe de nos anciens. Mm-hmm. Parce que ce sera pour nous demain, pour vous peut-être après-demain. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup à réfléchir, beaucoup à dire. Donc j'avais envie de vous raconter, si vous permettez, l'histoire de ma tante, oui. Nico, elle s'appelle. Je vais l'appeler Nicole, bien sûr, mais nous l'appelons Nico depuis toujours. Donc Nico, c'est une dame qui a aujourd'hui 87 ans. Mm-hmm. Mais elle était religieuse depuis l'âge de 18 ans, vous voyez, depuis très très longtemps. Elle a consacré sa vie aux autres, vraiment sa vie aux autres. C'est une infirmière qui a travaillé un peu partout, dans des cités, etc. Elle ne s'est jamais occupée d'elle-même. Elle s'est toujours occupée des autres. C'est le don qu'elle fait de sa vie, finalement. Il y a 8 ans de ça, elle est mutée, puisque vous savez, les religieuses, on les envoie dans un endroit, dans un autre, là où on a besoin d'elle. Mmh. Il y a 8 ans, elle était encore en grande forme. Elle est envoyée dans un EHPAD, dans la région de Rennes, et on lui demande de s'occuper de la petite communauté de religieuses qui est dans l'EHPAD. Elles sont plus que 8, là où autrefois, probablement, l'EHPAD était entièrement religieuse. Ça a été vendu, bien entendu, pour devenir une EHPAD publique, on va dire, et il ne reste plus que 8 religieuses. Donc elle s'occupe de cette petite communauté, elle organise les prières, etc. Elle fait les comptes, enfin bon, elle se soucie de comment vont les unes et les autres. Une fois de plus, elle s'occupe des autres. Il y a 1 an à peu près, elle tombe malade, une maladie un peu insinueuse, un peu lente. On pense qu'elle n'en a pas pour très très longtemps. Son taux d'hémoglobine chute, c'est-à-dire qu'elle perd tous les globules rouges, si vous voulez, elle perd petit à petit ses forces. Mmh. Elle m'appelle, elle me dit, donc je suis moi-même infirmière, hein, je précise. Je suis responsable de soins maintenant, mais je suis moi-même infirmière. Elle me dit, écoute, voilà, je ne veux pas faire d'investigation, je ne veux pas qu'on cherche pourquoi j'ai cette maladie. Je suis prête à partir maintenant, ma vie a été bien remplie, et je ne veux pas de soins non plus, c'est-à-dire que je ne veux pas de transfusion. J'accuse un petit peu le coup, mais je lui dis, écoute, voilà, je suis ta personne de confiance, elle a écrit ses directives anticipées et je veillerai à ce que tes volontés soient respectées. Et puis finalement, la maladie continue, elle évolue, mais très très lentement. Le premier confinement arrive, on ne peut plus se voir beaucoup. Les grands plaisirs de Nico, c'est alors la broderie, elle est très très intelligente, elle fait de l'ordinateur, il n'y a pas de secret pour elle, les messageries, les jeux sur la tablette, et puis aussi ce qu'elle adore, c'est une fois par mois à peu près, je l'emmène au restaurant et c'est sa bouffée d'oxygène, on va dire. De temps en temps aussi, j'ai 2 sœurs, hein, donc nous sommes 3 sœurs, 3 nièces pour elle. Oui. C'est nous sommes sa seule famille puisque mes parents sont morts depuis longtemps, enfin bon. Et elle vient chez l'une, chez l'autre, elle passe du temps, enfin, c'est des moments qu'elle partage qui sont autant de récompenses par rapport à toute cette vie qu'elle a donnée aux autres. Mmh. Il y a, donc le confinement arrive, on est déconfiné, on peut ressortir à nouveau, mais forcément, ses forces diminuent de plus en plus. Il y a 8 jours de ça, on découvre qu'il y aurait un cas de Covid parmi la communauté de religieuses. Donc on leur interdit de descendre à la salle à manger. C'est pourtant son plaisir. Mais bon, elle comprend, elle obéit, Nico. Elle a toute sa vie, elle a fait sans doute vœu d'obéissance aussi. Elle n'est pas habituée à se révolter contre les choses. Elle les subit, elle les accepte, elle pense que ça fait partie des choses qu'elle doit vivre probablement. Et puis, il y a quelques jours, donc elle me dit, oh là là, il y a une petite sœur qui a dû attraper le Covid. Elle ne bouge plus, elle ne sort plus de sa chambre, il faut préciser, hein. Donc voilà. On est venu me voir en me disant, je crois que c'était vendredi dernier, de toute façon, vous inquiétez pas, vu votre état de santé, on ne vous déménagera pas, on ne vous placera pas dans une unité Covid, c'est-à-dire qu'on ne vous changera pas de lieu de vie. Mmh. Donc elle est rassurée. Et samedi matin, vous voyez, ce n'est pas vieux, elle m'appelle et je crois que j'ai eu le choc de ma vie parce qu'elle sanglotait toutes les larmes de son corps. Elle avait presque du mal à parler en me disant « Écoute, on vient de me dire qu'on allait me changer de chambre, mais je ne veux pas changer de chambre, je veux mourir dans ma chambre. » Elle m'a dit « Je ne vous verrai plus, au revoir mes chéris. » Elle était catastrophée à l'idée de changer de chambre, de ne plus avoir son téléphone, etc. etc. Bien entendu, époustouflée par ce que je venais d'entendre, j'appelle l'EHPAD. Bon, il n'y a bien entendu pas de directeur ni de... Il y a un médecin coordinateur qui est joignable, mais je ne l'ai pas au téléphone. Je demande à lui parler. Je suis la personne de confiance donc de ma tante. Là, je tombe sur des soignants bienveillants, vraiment bienveillants, qui comprennent, qui me disent « Oui, effectivement, c'est pas... Bon, écoutez, vous inquiétez pas, on va rappeler le coordinateur, on va faire ce qu'il faut, vous tracassez pas. » Donc, ils acceptent de la laisser dans la chambre et la voilà soulagée. Merci, merci, enfin, voilà. Donc, je remercie aussi infiniment ces soignants qui ont fait preuve d'humanité ce samedi, un samedi, un week-end. Et le dimanche, donc je l'appelle régulièrement, bien sûr. Hein. Le dimanche soir, elle m'appelle en me disant « Écoute, on vient de me dire que non, finalement, ça n'allait pas être possible, qu'il allait falloir me déloger, me changer de chambre. » Et à nouveau paniquer. Donc, elle a eu ce week-end un stress absolument épouvantable, vous en doutez.
Oui, 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 je comprends. Oui.
Donc, lundi matin, bien sûr, à la première heure, j'appelle l'EHPAD pour avoir le directeur, pour lui exprimer ce que j'avais sur le cœur. Il était occupé en réunion, bien entendu, et ce qui est normal. Et il me rappelle en fin de matinée en me disant, voilà, on s'est réunis avec le médecin coordinateur, on ne peut pas faire autrement que de la mettre dans l'unité Covid, etc. Mais je dis, écoutez, je lui donne tous mes arguments. Ma tante est dans sa chambre. Elle ne sort pas de sa chambre. Elle ne risque pas de contaminer qui que ce soit. Elle est en fin de vie. Vous lui aviez dit qu'elle pourrait rester dans sa chambre. Ne faites pas ça, par pitié, un peu d'humanité. Ne faites pas ça. Laissez-la avec ses petites affaires, ses photos, son lieu de vie. Finalement, quand vous pensez dans les EHPAD, les gens sont chez eux. Ils ne sont pas en visite, ils ne sont pas à l'hôtel. Ils sont chez eux.
Oui, oui.
Laissez-la dans sa chambre. Elle ne veut pas partir. Donc, il me dit, bon, bah, écoutez, je vais voir. Mais vous savez, nous avons... Alors, il me rappelle après... en me disant « Nous avons été la voir, elle est d'accord. » Je lui dis « Écoutez, qu'est-ce que vous êtes allée dans la chambre de ma tante ?» Donc, elle est à moitié allongée dans un lit, dans un fauteuil. Vous êtes arrivée à trois personnes, drapées dans votre autorité. Il y avait le médecin coordinateur, le directeur, plus la cadre de santé. Mais ma tante, elle a jamais, elle veut pas embêter, elle a jamais bravé l'autorité. Elle vous a sûrement dit qu'elle voulait pas changer de chambre, mais que ben elle allait faire ce que vous voulez, qu'elle peut pas faire autrement, enfin voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc malgré tout ce que j'ai pu essayer de faire, le lundi après-midi, elle a été changée de chambre, bousculée, changée de chambre. J'ai réussi à avoir un téléphone et l'appeler. J'ai su que dans la nuit de lundi et mardi, elle avait dû pleurer. Le mardi matin, ça n'allait pas du tout. Elle avait un gros cafard. Heureusement, il y a une psychologue qui est passée l'après-midi avec qui j'ai discuté et qui a pu lui passer un téléphone qui fonctionnait. J'ai pu parler avec Nico, je l'ai senti un peu apaisée. Et bien entendu, dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien son état de santé s'est terriblement aggravé. On a été obligé d'appeler le 15, mais surtout les... Comment on appelle ça, le maintien à domicile, si vous voulez, avec les soins palliatifs.
L'aide,
qui sont venus aussitôt. Les soins ont été bien faits, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout a été fait comme il fallait. Mais là, Nico, heureusement, j'ai enfin eu la permission d'aller la voir ce soir, cet après-midi, avec une de mes sœurs. Et elle était apaisée. Donc là, le directeur est venu me voir. J'ai passé du temps avec le médecin. Je lui ai expliqué en quoi je trouvais que ce qui s'était passé ce week-end avait été inhumain. Donc on m'avait dit, le directeur m'avait dit, ne vous inquiétez pas, si l'état de santé de votre tante s'aggrave, on la ramènera aussitôt dans sa chambre. Sauf que là, Nico, elle ne veut plus retourner dans sa chambre, elle n'en a même plus la force. Donc je suis allée la voir, elle m'a confirmé qu'elle resterait là, qu'elle ne devait plus bouger, qu'elle trouve que les soignants autour d'elle sont tout à fait formidables, elle se sent heureusement aujourd'hui apaisée, bien entourée, elle sait qu'on fera ce qu'il faut pour elle. Et j'ai pu lui dire au revoir, si vous voulez.
Oui.
Mais je trouve que ce qui s'est passé, le stress qu'elle a pu avoir ce week-end a probablement précipité ce qu'on voit aujourd'hui. Mais malgré tout, elle était en fin de vie, je suis encore capable de le comprendre. Mais je pense qu'elle aurait pu avoir le droit à une fin de vie apaisée dans sa chambre. Quitte à la, peut-être l'enlever au dernier moment quand il y a besoin d'un peu plus de soins. Mais au moins, tant qu'elle était consciente, tant qu'elle avait envie de rester dans sa chambre, on aurait pu l'accompagner là, sans faire prendre aucun risque pour les autres résidents.
Mmh, vous avez raison, complètement. Et on vous a dit quoi parce que je suppose que vous avez posé des questions un peu, pourquoi ils agissaient comme ça?
Alors, bien sûr, je suis dans la santé, donc je suis capable de comprendre. En fait, vous savez, nous sommes aujourd'hui, nous croulons sous les protocoles, les injonctions des uns, des autres. Alors, les directeurs vous diront, c'est l'ARS qui nous dit de faire ça. Le médecin, lui, il veut qu'il y ait le moins de cas possible de Covid dans son établissement. C'est louable, l'objectif est toujours louable. Donc il dit, on va isoler toutes les personnes qui sont Covid positives. Elle était asymptomatique, ma tante. Ma tante est en train de mourir, mais elle n'est pas en train de mourir du Covid. Mmh. Elle sera sûrement comptée dans les gens qui sont morts du Covid dans l'unité Covid. Ce n'est pas le cas. Hein. Bon. Donc, on isole les gens pour pas qu'ils emmènent partout le Covid. Sauf qu'on a déjà empêché les familles de venir. Donc, forcément, le Covid, il circule au sein de l'établissement. Et j'allais dire, c'est bien d'essayer de limiter, mais c'est normal qu'il circule. Ou alors, il va falloir aller jusqu'au bout, mettre chaque résident dans une bulle et que plus personne n'approche. Vous imaginez de la vie que vont avoir les résidents.
Oui.
Donc oui, il faut que la vie continue à circuler avec le Covid, avec les soignants qui vont de toute façon, même en prenant 1000 précautions, peut-être l'apporter. Mais ce n'est pas de leur faute non plus, parce qu'on a vite fait de tomber sur eux. Ce n'est pas de leur faute. Mais le fait d'isoler ces gens Covid positifs dans une aile de l'établissement, j'allais dire, on suit un protocole. Ah, c'est parfaitement fait au niveau sanitaire, on est dans les clous, etc. Mmh.
On va marquer une petite pause, Edith,
oui,
et vous allez continuer à me parler de tout cela. Dans quelques instants, je vous retrouve, d'accord?
Oui, bien
à
sûr.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h49, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Edith, vous me disiez que vous étiez infirmière, hein, vous étiez cadre santé. Ce qui s'est passé avec cette tante, hein, c'est une tante.
Oui, c'est ça, c'est ma tante.
Vous le voyez, vous, dans le cadre de votre travail? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe souvent ou vous avez l'impression d'avoir joué de malchance?
Alors, je travaille en ambulatoire, donc on n'est pas tout à fait situations aussi critiques et aussi douloureuses. Mais si vous voulez, entre toutes les injonctions qu'on peut avoir, toute la sécurité que l'on veut mettre pour isoler les personnes, les protéger, etc., je pense que beaucoup de choses manquent de bon sens et d'humanité. C'est-à-dire, chaque cas est particulier. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. À un moment donné, cette EHPAD décide de faire une aile pour les Covid positifs. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode, mais après tout, je ne suis pas médecin moi non plus. Donc on isole peut-être. Sauf que cette pauvre sœur, qui elle est en fin de vie, ne quitte pas sa chambre. Pourquoi elle doit aussi être déménagée pour aller ailleurs? Est-ce que ça a du bon sens? Ben, ça n'a pas de sens du tout. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a deux semaines et demie, je suis passée la voir. Comme elle ne quittait plus sa chambre, donc j'ai pris rendez-vous, hein, tout ça c'est très protocolé, c'est normal, il n'y a pas de problème. Je prends rendez-vous, on me dit, ben voilà, votre tante ne peut plus quitter sa chambre, donc elle ne peut pas aller dans la grande salle où on organise les visites. Bon, d'accord, très bien. Donc, vous pouvez aller dans sa chambre, pas de souci, mais vous avez le droit à une demi-heure. Ah bon, une demi-heure? Oui, parce que dans la salle, les gens ont droit à trois quarts d'heure. Ah, et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est trois quarts d'heure dans la grande salle et une demi-heure dans sa chambre? C'est incompréhensible, ça n'a pas de sens, une fois de plus. Et là, vraiment, je ne vois pas pourquoi, en allant dans sa chambre, elle n'a qu'une seule visite, c'est la mienne. J'aurais pu y passer l'après-midi.
Oui.
Qu'est-ce que ça aurait changé?
Oui,
que rien, dans la grande salle, on fasse un tour de rôle, évidemment, puisque on descend les résidents, ils vont voir leur famille, on se doute bien qu'il faut limiter le temps. Mais là, le virus, il va plus. Je risque plus de lui faire passer le virus en restant une heure. Je ne sais pas, c'est incompréhensible. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on a juste envie de jeter l'éponge en disant mais arrêtons, réfléchissons. Ma fille qui travaille dans un EHPAD me disait tout à l'heure, oh là là, entre toutes les injonctions qu'on a, aujourd'hui on fait comme ça, demain on fait autrement. Chez nous aussi, c'est un petit peu pareil. Et bien, au bout d'un moment, la coordinatrice de son EHPAD lui dit, oh, écoute Marine, arrête de réfléchir et fais les choses. Eh bien non Marine, continue à réfléchir, continue à t'insurger, continue à dire que ça ne va pas.
Exactement.
On devient malveillant. Donc, il n'y a pas de volonté d'être malveillant. On est bien d'accord.
Complètement.
Mais quand même, le résultat, il est bien là.
Mmh. Non, mais vous avez totalement raison. C'est si on laisse faire les choses, et je le dis souvent hein, sur cette antenne, prenez vos responsabilités. C'est important. Parce que ce que vous nous expliquez ce soir, c'est ni plus ni moins ça. C'est prendre ses responsabilités. Parce qu'un jour, il ne faut pas oublier que je le répète aussi, hors de cette antenne, nous dirigeons tous vers le même port. Hein. Nous serons, dans quelques années, Nico, là. Nous serons cette femme qui, pour qui c'était important de ne pas bouger d'endroit, de ne pas être bousculé, là, dans ce contexte-là. Nous aussi, on aura le droit à ça. Et si on ne prend pas nos responsabilités aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est nous qui vivrons ça demain. Et sincèrement, moi je vous le dis, quand je pense à ce que vous venez de me raconter, j'ai déjà pas très envie de vivre ça, hein, le fait de me retrouver à l'hôpital ou dans un EHPAD. Mais en plus, voilà, j'espère que si ça nous arrive, eh bien, au moins on aura évolué. Les mentalités auront évolué et on comprendra combien c'est important quand une personne est fragile comme ça, sur la fin de sa vie, que des petites choses peuvent complètement la faire basculer dans autre chose. Bon, c'est malheureusement, voilà, il y a eu plein de... Depuis en plus ce Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes bousculées. Malheureusement.
Beaucoup, et puis nos anciens sont vulnérables, ne peuvent pas s'exprimer. Donc si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Et puis ces grands EHPAD sur lesquels forcément il faut prendre des grandes mesures, est-ce que vraiment c'est une finalité? Est-ce que vraiment il ne faut pas repenser à des petits espaces plus familiers, plus où on sera plus proche des gens, où on pourra plus facilement peut-être isoler quelqu'un, mais en continuant à l'accompagner? C'est sûr que ces grandes usines de vieillesse ne font pas envie du tout.
Mais non, vous avez raison. Et non, il faut être... Vraiment, il faut prendre ses responsabilités face à... Surtout quand on travaille dans... On avait un cadre comme ça, pas un cadre, mais un... Je pense que c'était un infirmier ou un aide-soignant qui nous a appelé un soir sur cette antenne et qui nous disait qu'il avait dénoncé des mauvais traitements. Mais il nous disait, je l'ai fait. J'ai été viré hein, d'où j'étais, et j'étais un peu la brebis galeuse, on a fait circuler mon nom dans plusieurs EHPAD, et ils peinaient à retrouver du travail. Alors bien évidemment, on sait que prendre ses responsabilités, ça incombe aussi le fait de pouvoir s'exposer. Mais voilà, cet homme, il avait dénoncé, et il a pris ses responsabilités, et ça a fait du bruit, son histoire. Donc voilà, c'est tout ce que ça m'inspire, hein, c'est ce que vous m'avez raconté, Edith. Ouais.
Ce que j'avais juste envie de rajouter aussi, c'est que nous, on parle de semaines de confinement, mais pour les anciens qui ont cet âge-là,
ce sont des mois.
Semaines de vie perdues. Mmh. Parce que vivre dans une EHPAD pour rester dans sa chambre, on vous sert un repas, etc., ben, ça n'a pas beaucoup de sens, réellement.
Non. Mais bien évidemment, vous avez raison. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais bon, on va essayer... d'être alerte, hein, les uns et les autres. Ça commence aussi dans la rue, chez nous, dans nos appartements, écouter ce qui se passe autour de nous, quand on descend dans la rue, voir comment on fait attention les uns aux autres. De toute façon, je pars du principe que je pense qu'il faut parler, il faut échanger entre nous, il faut converser, et quand quelque chose de pour nous ne va pas, il faut le dire. On n'est pas obligé de le dire en hurlant, Voilà, en s'opposant, on peut dire les choses calmement.
Il faut dire qu'on n'est pas d'accord, voilà. Et il faut dire qu'il y a peut-être d'autres solutions, et que dans tout ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi on fait les choses, et comment on les fait, et alerter quand on n'est pas d'accord.
Complètement. Complètement, vous avez raison. Ah là là, c'est... de toute façon, je me disais... on parle ce soir, et c'est une petite goutte, hein, encore, de rajouter, dans ce combat-là. Mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup pendant le Covid. Là, on a entendu tout un tas d'EHPAD dans lesquels on ne pouvait même plus rentrer. Et on a reçu des appels ici à la Libre Antenne de personnes qui avaient vraiment peur, hein, qui nous parlaient, qui ne voulaient même pas passer à la radio. Mais qui nous disaient, avec ce Covid... il y a bien évidemment des personnels soignants qui y a des gens qui dorment à l'EHPAD, il y a plein de gens qui sont vraiment dans le sacrifice, mais ils s'en passent aussi vis-à-vis des pensionnaires, des choses qui ne devraient jamais avoir lieu. Et ces personnes-là n'osaient même pas témoigner de peur d'être reconnues. Donc... voilà, c'est ce qui fait froid dans le dos, parce qu'une fois qu'un EHPAD est clos, comme ça, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Tout à fait. C'est plus compliqué. Mm-hmm. C'est moins clair, en tout cas.
En tout cas, voilà, il faut qu'on prenne les uns les autres nos responsabilités. J'espère en tout cas que le moral va aller, Edith.
Oui, j'ai vu ma tante ce soir, on est sortis avec ma sœur. Apaisée de la voir elle-même n'attendant que ça, d'aller retrouver son frère, ses parents, enfin voilà.
Très bien.
Histoire de vie.
Très bien.
Donc ça nous a fait plaisir de voir qu'elle était bien, et les soignants qui étaient autour d'elle étaient tout à fait formidables, il n'y a absolument rien à redire.
Très bien. Je pense
qu'on aurait pu simplement lui éviter tout ce qui s'est passé ce week-end et qui a probablement accéléré les choses. Mais les choses, ça devait quand même arriver. Je ne me révolte pas contre ça. Mais bon, ça aurait pu se passer plus calmement.
Très bien. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas, et mille merci d'être intervenu sur notre antenne ce soir.
Merci de m'avoir permis de m'exprimer.
Je vous en prie. Au revoir, Edith.
Au revoir.
Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.